podcast de l'UA. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez See More Blue, un podcast rattaché au séminaire de recherche du même nom, qui est basé à l'Université d'Angers. Je m'appelle Béné Meillon et je suis professeure des universités à l'UA à Angers, où je suis responsable scientifique du séminaire de recherche interdisciplinaire See More Blue. Alors pour l'année 2024-2025, je suis entourée pour la conception de ce podcast de deux jeunes chercheuses, Valentine Porcil, doctorante à Nantes Université, et Lucie Véju, étudiante en deuxième année du master Humanité environnementale à la NU également, et stagiaire à l'UA, dans le cadre du séminaire de recherche See More Blue, sur lequel repose donc la réalisation de ce podcast. Dans ce podcast, comme dans le séminaire de recherche éponyme, nous nous intéressons aux perceptions, aux représentations et aux imaginaires de l'eau, des mers et des océans. Pour ce faire, nous analysons des récits, des imaginaires et des représentations qui émergent de la littérature et des arts, mais également des sciences humaines, des études culturelles et des sciences dites du vivant. Nous convions ainsi des chercheurs et des chercheuses dont les travaux relèvent de disciplines variées à venir nous parler d'imaginaires océaniques et aquatiques pour plonger avec elles et eux dans des mondes bleus et pour bleuir ainsi notre compréhension du monde. Pour plus de détails sur les objectifs de ce podcast et le contexte dans lequel il évolue, nous vous invitons à écouter l'épisode pilote que vous trouverez en ligne. Aujourd'hui, je suis avec Lucie Véju et nous accueillons Franz Minard et Odile Delfour. Franz Minard est maître de conférence au CDMO, spécialiste de droit maritime et océanique. Et Odile Delfour est maîtresse de conférence habilitée à diriger les recherches au CDMO également. Bonjour Franz, bonjour Odile.
Bonjour Béné.
Bonjour Béné. Bonjour. Bonjour Lucie.
Bonjour Lucie.
Alors notre première question, c'est d'abord de vous demander d'expliquer un petit peu comment vous en êtes venu à vous intéresser dans vos travaux de recherche à des questions dites bleues en lien avec la mer et l'océan.
Bon, en fait, c'est un parcours relativement long, dans la mesure où moi, j'ai commencé par le droit de l'environnement. Donc, j'ai fait une thèse en droit de l'environnement terrestre, plutôt. Et c'est par la suite, dans le cadre de cours que j'ai eu l'occasion de donner à l'Université de Cergy-Pontoise, où j'étais en poste, que j'ai commencé à m'intéresser aux questions maritimes. Et d'intérêt en intérêt, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à Nantes. Et j'ai vu qu'il y avait effectivement un laboratoire de recherche, donc le CDMO, le Centre de droit maritime et océanique, qui était spécialisé sur ces questions. Donc, je me suis rapprochée de ce centre et c'est comme ça que vraiment mon intérêt pour les questions maritimes s'est développé, mais toujours en lien avec la question environnementale. Donc, en fait, moi, je suis venue au maritime par le droit de l'environnement.
Et Franz ?
J'ai réalisé moi aussi une thèse sur le droit de l'eau. Et de fil en aiguille, je suis arrivé des eaux douces aux eaux salées. J'ai travaillé tout d'abord en histoire du droit avec quelques spécialistes comme Jean-Louis Cazanica qui était très ouvert. Et ça m'a permis également de lire beaucoup d'articles et de livres d'autres historiens du droit plutôt maritimistes tels Philippe Jean Hess ou Dominique Gorier. Et je suis moi également revenu vers le CDMO par l'intermédiaire de cette problématique environnementale qui est commune entre les eaux douces et les eaux salées.
Merci beaucoup pour ces présentations. Est-ce que vous pourriez peut-être définir en quelques mots ce dont relève le droit maritime, donc sur lequel vous travaillez ? Et est-ce que celui-ci recouvre le droit de la mer ou est-ce que ce sont deux choses différentes ?
Alors, en fait, ce sont deux disciplines différentes, hein, le droit de la mer et le droit maritime. Donc moi, je ne travaille pas en droit maritime, je travaille exclusivement en droit de la mer. Le droit de la mer, c'est le droit qui va réguler les droits et les obligations des États, donc qui va préciser quels sont les statuts des différentes zones maritimes et quel régime juridique s'y applique. Donc c'est ce qui relève de notre division à nous les juristes entre droit public et droit privé. Donc le droit de la mer, c'est du droit public et c'est du droit international. Donc c'est vraiment le droit qui régule les relations entre États et organisations internationales dans l'espace maritime. À l'inverse, le droit maritime relève du droit privé, et donc c'est le droit qui précise les relations entre les opérateurs économiques qui interviennent au sein de l'espace maritime.
L'histoire du droit maritime est beaucoup plus ancienne, ce qu'elle est antérieure à la formation, à la genèse des États. L'histoire du droit des transports, l'histoire également du commerce associé à ces transports, fait partie des enseignements traditionnels qu'on retrouve en droit maritime. Et inversement, toute la logique de confrontation des États sur la mer et les problématiques qui ont pu découler de cette confrontation sur leurs compétences respectives, a plus de rapport avec le droit de la mer, effectivement, tant bien avec le droit de la mer.
Et Franz, il me semble que dans une conversation informelle, tu m'avais parlé donc de l'importance pour toi du traité Mare Liberum, la liberté des mers, publié par le philosophe et juriste Hugo Grotius en 1609, qui initie finalement le droit international. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de l'importance de ce traité dans la définition du droit maritime en premier lieu, et aussi éventuellement en lien avec nos représentations et nos imaginaires de la mer?
Alors, je m'intéresse effectivement beaucoup à Hugo Grotius, puisque c'est un personnage incontournable qui est cité en permanence dans les ouvrages de droit, mais aussi de sciences politiques, d'histoire. Et c'est un intérêt ambivalent, puisque c'est un auteur qui est présenté comme fondateur, comme à l'origine de l'histoire du droit international, comme à l'origine du droit de la mer, ce qui n'est pas totalement vrai. Et à travers l'imaginaire qu'il a produit, nous avons construit au fil du temps, en droit, une tradition qui s'est répétée. Or, le droit de la mer ou le droit international a des racines beaucoup plus complexes, avec des personnalités comme Vittoria. Et surtout, l'ouvrage de Grotius, qui est connu, qui est cité, ce n'est pas réellement un ouvrage, c'est toujours un chapitre. Un chapitre d'un ensemble beaucoup plus vaste, de Iure Praedea. Et c'est toujours ce 12e chapitre qui est repris en permanence, qui n'est qu'un chapitre parmi d'autres, et qui est parfois mal compris. Ce qui est certain, c'est que c'est un auteur qui m'a toujours intéressé, comme à la fois qui cristallise un imaginaire juridique, et qui en même temps cristallise beaucoup d'erreurs et beaucoup de confusion. Puisqu'il y a eu beaucoup de contradicteurs, Zeldon, Walwood, Freitas. Donc c'est intéressant comme personnage clivant et en même temps fédérateur, pour enseigner l'histoire du droit maritime et surtout l'histoire du droit de la mer, parce que c'est un peu le point de départ des polémiques dans la doctrine du droit de la mer.
Et dans une perspective plus contemporaine, vous avez évoqué la mondialisation comme un facteur décisif qui a obligé à repenser le droit un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, et notamment qu'est-ce que la mondialisation a changé en fait du point de vue du droit ?
Nous sommes toujours dans la même dynamique. La mondialisation, c'est un terme assez contemporain pour qualifier un phénomène que d'aucuns appellent la maritimisation du monde. Cette maritimisation est assez ancienne, et même certains navigateurs, je relisais encore là, quelques lignes de Kersauzon qui citait Magellan et y en parlait comme l'un des premiers navigateurs de la mondialisation, effectivement. Cette maritimisation, elle a transformé notre rapport au commerce, notre rapport aux espaces, alors que la plupart des mers sont des mers inconnues, les espaces ne sont pas encore nommés, ces noms apparaîtront très tardivement au XXe siècle. Donc cette maritimisation, elle est fondamentale et elle commence très précocement dans notre discipline. En droit maritime, en droit de la mer, ce sont des questions qui apparaissent avant d'apparaître sur Terre. Un peu de la même manière que les assurances apparaissent d'abord en mer avant de se diffuser sur Terre.
Tout est simplement une précision alors plus positiviste, parce que évidemment, moi j'étudie l'état du droit tel qu'il existe maintenant. Je pense que la mondialisation, on peut aussi l'entendre comme la multiplication des rapports entre États. Et ce que ça a changé, c'est que ça a donné une importance au droit international, tout au moins un développement normatif du droit international, que celui-ci avait moins avant. Donc il suffit de regarder le nombre de conventions, donc bien entendu dans le domaine maritime, mais pas que. Et donc avec la conséquence que les États se sont trouvés devant l'obligation de coopérer et donc de créer des institutions à cette fin. Donc, je pense que ça aussi, la mondialisation, elle joue aussi un rôle dans le développement normatif et le développement institutionnel en droit international.
Et précisément, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est quand même un document qui revient beaucoup de par son importance, donc signé à Montego Bay en Jamaïque le 10 décembre 1982. Donc cette convention, elle a permis d'établir des droits fondamentaux qui ne sont pas sans incidence sur nos représentations et nos imaginaires de l'océan. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Alors, je ne sais pas si je parlerai de droits fondamentaux, parce que les droits fondamentaux, ça renvoie plutôt au corpus droits de l'homme. Je pense qu'on peut parler des droits et des obligations des États. Alors, comme l'a dit très justement Franz, c'est un droit qui a des origines anciennes, hein, donc bien entendu, il ne date pas de Montego Bay. Et donc, Montego Bay, c'est en quelque sorte la consécration ou l'aboutissement de toutes ces pratiques des États. Donc, il y a une grande partie coutumière, issue de la coutume internationale que l'on retrouve au sein de la Convention de Montego Bay, qui va finalement codifier les pratiques anciennes des États, dont certaines remontent au XVIIe siècle. Et un des principes qui est clairement affirmé par la Convention, c'est le principe de la liberté des mers, donc quand même qui est un peu porté par Gronsius, non. Et donc ce principe de la liberté des mers qui peut se comprendre. Alors là, il y a parfois des confusions. Quand on parle de la liberté des mers, c'est pas l'absence de droit, c'est l'absence d'appropriation par un simple État. Et donc, certains espaces maritimes bénéficient toujours de ce principe, ou sont toujours soumis au régime du principe de la liberté des mers. C'est le cas de la haute mer. Et je pense que c'est quelque chose qui alimente un peu notre imaginaire. Parce que quand on pense à liberté, ben on pense à beaucoup, beaucoup de choses possibles finalement. Alors, ce n'est pas tout à fait la manière dont les juristes l'entendent. Parce qu'encore une fois, la liberté, ça ne veut pas dire l'absence de droit ou l'absence de contrainte. Hein. Ça veut simplement dire que c'est l'état du pavillon, l'état de nationalité du navire qui est compétent dans cet espace et que ce sont les lois de cet état qui vont s'appliquer dans l'espace international qu'est la haute mer. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que face à ce principe de liberté, le XXe siècle a permis le développement ou la revendication d'un certain nombre d'états côtiers pour augmenter leur emprise sur l'espace maritime et pour étendre leur souveraineté dans un premier temps et leurs droits souverains dans un deuxième temps sur cet espace maritime. Et finalement, la Convention de Montego Bay, plutôt que l'affirmation de droit, je dirais, c'est la Convention qui établit un équilibre entre ce principe de liberté qui est porté par les grandes puissances maritimes et ces revendications d'un certain nombre d'États côtiers pour avoir plus d'emprise sur l'espace maritime, alors à proximité plus ou moins immédiate de leurs côtes, hein, puisque ça peut aller jusqu'à 200 000 marins des côtes, donc on est à plus de 300 kilomètres, mais pour des raisons qui tiennent à la gestion des ressources halieutiques ou des raisons qui tiennent à la nécessité de protéger l'environnement. Et donc pour moi, alors encore une fois, la Convention de Montego Bay, plus que l'affirmation de droits, et certainement pas droits fondamentaux, c'est tentative d'un équilibre entre des revendications contradictoires.
Donc Odile, lors d'une conférence que vous avez donnée à l'IEA l'an dernier, dans le cadre d'un atelier sur les imaginaires océaniques, organisé par Franz et par Sophie Allard, vous avez donné une présentation qui s'articulait autour de la notion de ligne, que vous avez déclinée de différentes façons du point de vue du droit maritime. Vous avez notamment défini la notion de ligne de base, qui intervient dans la délimitation de la mer territoriale. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces définitions et concepts?
Alors oui, donc c'est un peu technique. En fait, la ligne de base, c'est la ligne qui fixe la limite entre ce qui relève du territoire terrestre d'un État et ce qui relève de son territoire maritime. Donc tout État côtier, donc tout État qui a une façade maritime bénéficie d'un territoire maritime. Et la question qui s'est posée, c'est où commence ce territoire maritime et donc où s'arrête le territoire terrestre d'un État? Et la réponse, c'est que cette frontière entre le terrestre et le maritime est fixée par la ligne de base. Donc la ligne de base, c'est une ligne que chaque État fixe unilatéralement, mais à partir des conditions qui sont posées par la Convention de Montego Bay, avec deux possibilités hein, qui s'offrent aux États, soit considérer, c'est là ce qu'on appelle la possibilité de droit commun, c'est-à-dire lorsque les États peuvent utiliser cette option, ils doivent le faire, considérer que c'est la ligne de basse mer. Donc, en fait, l'espace maritime commence là où commence la marée basse. Voilà, ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est quand les États ont des côtes qui sont très échancrées ou lorsqu'il y a des îles à proximité immédiate de la côte, ils ont la possibilité, mais c'est un peu dérogatoire par rapport au principe, de tracer des lignes qui vont permettre aux points les plus externes de la côte d'être associés, en fait. Une ligne qui va rejoindre, voilà, c'est le terme exact, les points les plus externes de la côte. Et à partir de cette ligne de base, sont calculés tous les espaces maritimes, donc la mer territoriale, mais pas que la mer territoriale, l'espace qui vient aussi après la mer territoriale, qu'est la zone économique exclusive, on calcule également la distance du plateau continental. Donc c'est vraiment la ligne qui établit la frontière entre l'espace terrestre d'un État, donc l'espace qui est soumis à la souveraineté pleine et entière d'un État, et son espace maritime, au sein duquel l'État va exercer une compétence qui va se dégrader en quelque sorte, c'est-à-dire que plus on va s'éloigner de la terre, plus les compétences de l'État côtier vont décroître.
Et alors par rapport à ça, quel problème est-ce que ça pose de dépendre aujourd'hui du recul de trait de côte avec le réchauffement climatique et la montée des eaux? Donc on a cette ligne de base qui est fixée, qui est délimitée de façon géographique.
Oui.
Et quand, en fait, au niveau géographique, on a quelque chose de mouvant, d'instable, qu'est-ce que ça pose comme problème pour délimiter ensuite la mer territoriale, la zone d'activité économique?
Ça pose le problème, effectivement, parce que tu l'as très bien dit, Béné, en fait, cette ligne de base, elle s'établit à partir de données géographiques, à partir de points géographiques. Et là, on a un exemple où le droit, et c'est assez souvent le cas en droit de la mer, est très lié à la donnée géographique. À partir du moment où cette donnée géographique évolue, la question se pose de l'évolution de la norme. Donc, est-ce que parce que la donnée géographique change, et elle change effectivement sous l'effet du réchauffement climatique, est-ce que donc parce que cette donnée géographique évolue, il faut que la norme évolue aussi? Et c'est là qu'il y a deux options. Donc, la première option qui est effectivement l'option de la mutabilité, qui est de dire, bah oui, comme la donnée géographique évolue, la norme qui est la conséquence de cette donnée géographique doit évoluer elle aussi. Et ça s'appuie également sur le principe que la terre domine la mer. Donc, la mer, elle se construit par rapport au point terrestre. Voilà, donc ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, la théorie de la permanence, c'est de dire, bah non, finalement, peu importe l'évolution géographique, cette ligne de base, elle a été fixée et elle doit rester en l'état. Et c'est peut-être une approche un peu plus pratique aussi qui peut expliquer que cette deuxième théorie semble maintenant avoir la préférence des États. Parce qu'à partir du moment où on en viendrait à modifier la ligne de base, c'est pas que la ligne de base qui va changer. En fait, c'est tous les espaces, enfin, toutes les distances des espaces qui ont été calculées par rapport à cette ligne de base. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que les États, redéfinissent la limite externe de leur mer territoriale, redéfinissent la limite externe de leur zone économique exclusive, de leur plateau continental. Alors ça serait éventuellement possible. Là où les choses deviennent très compliquées, c'est lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace maritime entre deux États dont les côtes se font face, par exemple. Ces deux États ont conclu des accords de délimitation de leurs zones respectives. Donc là, ça voudrait dire qu'il faudrait revenir potentiellement sur les accords de délimitation. Et là, on comprend bien que... on rentre dans l'inconnu, parce que ce n'est pas toujours facile pour les États de se mettre d'accord sur une frontière commune, y compris lorsque c'est l'aspect maritime qui est concerné. Et donc, ça voudrait dire éventuellement repartir sur de nouvelles négociations. Voilà, donc c'est très compliqué. Et le droit, quand même, il sait parfois aussi se soustraire de la réalité géographique. On a d'autres cas de figure où, y compris la Convention Montego Bay, reconnaît qu'il peut y avoir des espaces qui ne s'appuient pas sur une réalité géographique. Donc, il est probable qu'on en arrive à cette solution. Une précision, ce sont les États qui décident, qui vont décider de par leur pratique quelles solutions ils vont préférer mettre en œuvre.
Donc, toujours dans la conférence que vous avez donnée à l'IEA, dont j'ai parlé tout à l'heure, Odile, vous avez donc mentionné ces deux théories un petit peu opposées de la mutabilité et de la permanence, et vous avez proposé un petit peu une troisième voie, la théorie de la ligne imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet et nous expliquer comment est-ce que articuler toutes ces théories, ça peut nous permettre de penser l'avenir assez flou des territoires maritimes ou des méritoires, pour reprendre le néologisme proposé par Camille Parrin?
Alors, en fait, je pense que quand j'ai parlé de la ligne imaginaire, c'était plus pour une troisième hypothèse, qui est alors une hypothèse un peu plus catastrophiste, mais enfin qui risque peut-être d'arriver, c'est lorsque le territoire d'un État disparaît complètement. Parce que là, effectivement, avec ce qu'on appelle la montée des eaux et donc l'érosion du trait de côte, la ligne de base rentre dans les terres. Mais l'État est toujours là, donc il perd un peu, enfin, ou il gagne, ça va dépendre du choix qui est fait, d'espace, mais son assise territoriale est toujours présente. Il y a des cas de figure, et c'est un peu ce que craignent les scientifiques du GIEC, où on pourrait imaginer que l'État perde l'intégralité de son territoire du fait de la submersion totale du territoire. C'est là que la question de la ligne imaginaire se pose, c'est-à-dire lorsqu'un État disparaît complètement, enfin, lorsque son territoire disparaît, que reste-t-il de l'État? Sachant que le territoire, c'est un élément nécessaire à l'existence d'un État. Donc il y en a trois, il y a le territoire, la population et le gouvernement. Et donc là, évidemment, avec la disparition du territoire, c'est aussi la disparition, alors non pas de la population, mais la délocalisation de la population et la délocalisation du gouvernement. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un État déterritorialisé? Voilà. Et c'est la question de la ligne imaginaire. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus le territoire de l'État qui permet justement à l'État de projeter sa compétence sur les espaces maritimes, ben, est-ce qu'il peut toujours projeter cette compétence maritime? Est-ce qu'on peut imaginer un territoire alors, il n'est pas complètement imaginaire, il existe encore, mais il est sous-marin. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer des lignes qui ne reposeraient plus sur quelque chose de tangible? D'où cette idée d'une ligne imaginaire. Voilà. Et c'est vrai que à partir de là, on comprend bien que le droit de la mer, c'est vraiment un droit du zonage. Et c'est un zonage qui est très clair dans les textes. Donc, ce n'est pas flou, le zonage maritime, hein. On a vraiment des distances qui sont précisées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, il n'y a pas de flou dans le zonage maritime. Mais à partir du moment où les éléments sur lesquels ce zonage peut se mettre en place disparaissent, là, pour le coup, oui, tout devient beaucoup moins clair. Et c'est là qu'on a besoin d'imaginer de nouvelles solutions, peut-être, en tant que juriste. Alors, ce sont des solutions qui sont proposées par la doctrine, hein. Les États réfléchissent pas trop à ce type de solution. Ils ont une approche beaucoup plus pragmatique, j'imagine. Mais oui, la doctrine essaie d'imaginer, ce qui pourrait advenir de ces territoires submergés par les eaux et avec une population qui pourrait peut-être être hébergée sur le territoire d'un autre État, avec un gouvernement qui serait en exil, voilà, mais peut-être en exil permanent, hein, si le territoire a disparu complètement. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit bien que toutes ces nouvelles questions, ça interroge la norme telle qu'on la connaît et qui nous vient, alors la notion d'État, hein, ça nous vient du XVIIe siècle. Donc ce sont des concepts qui sont très ancrés et sur lesquels on est vraiment obligé maintenant de réfléchir à nouveau avec des perspectives complètement nouvelles. Donc ça nous oblige à quand même à déstructurer un peu nos modes de pensée. Voilà, et ça, c'est une des conséquences parmi d'autres du réchauffement climatique.
Il me semble que peut-être tu avais mentionné l'île de Clipperton comme étant menacée par ce cas-là ou vraiment un endroit où.
L'exemple, c'est que si jamais l'île de Clipperton disparaissait, justement, la France aurait plus du tout d'espace maritime dans cette zone. Tout ça pour dire que, évidemment, ça peut paraître parfois très théorique d'évoquer ces questions de disparition, mais ça a des aspects très pratiques et très économiques, en fait. Parce que ça veut dire que les zones de pêche, donc la zone économique exclusive qui est associée à ces territoires, s'il n'y a plus de territoire, la zone économique exclusive, elle disparaît aussi. Donc c'est tout un ensemble économique dont certains États vont pouvoir être privés. Ouais.
C'est un ensemble économique, bien évidemment, mais on peut penser à ces populations dont les territoires sont engloutis,
Oui.
qui doivent, comme tu le dis,
Ouais.
déménager, migrer dans des territoires voisins,
Oui.
mais qui peuvent, si leurs ZEE, leur zone d'exclusivité économique disparaît, se retrouver aussi privés de leur activité
Bien sûr.
principale. Et donc, ça peut être aussi des cultures entières qui sont englouties. Et au-delà de la dimension économique, qui est bien sûr majeure, de quoi vont survivre et de quoi vont vivre ou subsister ces populations, mais on peut y voir aussi voilà, une menace qui pourrait engloutir une communauté qui est fondée autour de pratiques, de la pêche.
Oui, bien sûr.
Potentiellement aussi de liens avec certaines espèces que ces cultures ont l'habitude de pêcher, de cuisiner. Voilà, c'est pas que économique, la menace de l'engloutissement.
Non, 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 bien sûr, c'est pas que économique. Après, la question se pose, qui va accueillir ces populations, hein, première question. Et la deuxième question, c'est avec quel statut? C'est-à-dire, est-ce que ces populations, si jamais elles sont accueillies, ce qu'on souhaite, bien entendu, est-ce qu'elles vont être complètement assimilées, aux populations qui les accueillent? Et dans ce cas-là, ben, c'est la disparition d'une spécificité. Ou est-ce que, justement, elles vont garder ces cultures, cette spécificité? Mais ça va pas être facile si, où les bases de cette culture, disparaissent.
Et c'est là peut-être aussi où il me semble que le terme de méritoire est utile, parce que c'est vrai que quand on dit territoire maritime, en dehors du fait que c'est un bel oxymore et que c'est intéressant d'un point de vue poétique, mais il y a quelque chose d'absurde de penser qu'une population, un peuple pourrait conserver des droits sur un territoire qui est englouti. Alors qu'il me semble que quand on dit méritoire, on fait exister au niveau des représentations le fait qu'il y a des espaces maritimes qui sont étroitement liés, dont pourrait se réclamer un peuple qui a un lien avec la mer, avec des populations halieutiques, et qui peut engendrer tout un tas d'autres liens, bien sûr, l'interdépendance économique, mais chez certains peuples, il y a aussi des interdépendances spirituelles, psychiques, identitaires, en fait, hein, de personnes qui se sentent reliées à la faune et à la flore, aussi d'un espace maritime, et qui, voilà, s'ils sont privés de ces espaces-là, perdent beaucoup plus que simplement de quoi exercer une activité économique.
Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est généralement ce à quoi on pense en premier parce que c'est aussi la condition de la survie.
Bien sûr.
Mais évidemment, c'est tout un ensemble qui risque de disparaître, hein, avec la disparition de ces États. Et c'est pas une hypothèse d'école. C'est là où c'est inquiétant. Les chiffres que nous donne le GIEC, qui sont de rapport en rapport toujours un peu plus inquiétants, hein, c'est une hypothèse qu'il faut qu'on anticipe. Hein. Enfin, alors quand je dis nous, ça reste encore de l'ordre du droit international. Donc c'est aussi aux États de trouver des solutions, face à ces questions. Alors, certaines institutions se sont saisies de ces questions. Hein. C'est le cas des Nations Unies, dans le cadre de la Commission du droit international, qui a. Alors, évidemment, c'est très long, hein, parce qu'on est dans l'ordre juridique international. Donc il faut que tous les États, arrivent à se mettre en marche, mais qui a quand même lancé toute une étude sur cette question, y compris la disparition du territoire d'un État.
Oui. Et là, on parle en fait de la labilité, de l'impermanence de territoires maritimes du point de vue des humains. Mais en fait, la question se pose aussi en termes de méritoire ou d'espaces marins, qui sont les habitats de certaines espèces, et notamment lorsque les humains ont délimité donc des aires maritimes protégées, plus ou moins protégées, selon les statuts précis de telle ou telle aire maritime. Bon, on sait qu'en France, hein, il y a beaucoup d'activités quand même qui sont autorisées, qui ne protège pas complètement ces aires maritimes. En fait, la même question se pose avec le réchauffement climatique, avec le réchauffement de l'océan, l'acidification des eaux, avec toutes les perturbations que causent nos activités dans les cycles, les grands courants marins, tout ce qui est la régulation et les courants, la circulation thermohaline des eaux, donc les courants froids, les courants chauds. Là, on est en train de perturber de façon très sévère ce qui gère la circulation des eaux en fonction de leur degré de salinité, de leur densité et de leur température. Et bien sûr, tout cela amène des déplacements de populations autres qu'humaines, donc de populations halieutiques, de poissons, entre autres. Qu'en est-il donc de la définition géographique de ces aires marines protégées du point de vue du droit? Est-ce que c'est une question qui est aussi pensée? Comment on pense la capacité de ces aires à évoluer, du point de vue juridique?
Alors, c'est une deuxième très bonne question. Tout ça, ce sont des défis que doit relever la norme et qui ne sont pas des défis faciles à relever. Parce qu'en droit, et on comprend assez facilement pourquoi, on a quand même besoin de stabilité. On a besoin, il y a un principe, hein, qui gouverne le droit, qui est celui de sécurité juridique, qui veut dire qu'il ne faut pas que la norme, elle change tout le temps et qu'elle change du jour au lendemain, parce que sinon, on n'arrive plus à l'identifier et on ne la connaît pas bien. Et évidemment, alors surtout quand on est en droit international, pour le moment, ce sont encore les États qui vont désigner de manière unilatérale leurs aires marines protégées, parce que jusqu'à présent, la compétence pour désigner des AMP, elle existe donc en mer territoriale et dans la zone économique exclusive. Bientôt, ce sera possible, on l'espère, hein, une fois que le traité BBNJ sera entré en vigueur pour les États de désigner également des aires marines protégées, en haute mer. Mais donc, quand un État désigne une aire marine protégée, il le fait à partir de critères qui sont des critères écologiques. Et donc, ces critères écologiques, ils sont donnés par les scientifiques en fonction de l'état d'une population, du niveau de dégradation d'un écosystème. Et ensuite, c'est tout un mécanisme qui se met en place, qui peut être plus ou moins long selon le type d'aire marine protégée à désigner. Et une fois que celle-ci est désignée, c'est fait, elle est établie. Et si par malheur, j'ai envie de dire, les espèces quittent, alors quand c'est de la flore, quand c'est un écosystème comme une barrière de corail, c'est plus simple parce que c'est, au moins c'est, ça ne bouge pas. Ça peut être détruit indépendamment de la présence de l'aire marine protégée, mais au moins, il n'y a pas de mouvement de l'écosystème, en tout cas pas encore. Mais lorsque les espèces quittent l'aire marine protégée, elles sont plus protégées, en fait. Ah oui. C'est tout simple. Donc, en fait, elles sortent de la frontière de la zone protégée pour arriver dans un espace où elles ne bénéficient plus d'un statut de protection. Et alors là aussi, il faut que le droit innove. Mais c'est plutôt les universitaires ou parfois même les scientifiques qui proposent de nouvelles catégories d'aires marines protégées, avec notamment des aires marines protégées mobiles. Donc ça, c'est la demande de la communauté scientifique, et de dire il faudrait des aires marines protégées qui suivent les déplacements des espèces. Sauf que les espèces, elles ne se déplacent pas toujours de la même manière au même endroit. Et pour la norme juridique, c'est extrêmement difficile d'imaginer, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas créer une aire marine protégée. Voilà. Donc là, on comprend que ça va être un peu difficile à mettre en place. Par contre, ce sur quoi on commence à réfléchir déjà depuis un moment, c'est de protéger les espèces migratrices. Et donc peut-être qu'on pourrait imaginer la même chose pour des espèces qui, au départ, ne sont pas migratrices, mais qui le deviennent sous l'effet du réchauffement climatique. Donc de protéger, en fait, les trajets de migration. Donc l'aire marine protégée, elle peut être non pas sur un espace qui va être clos dans un tout petit espace ou même un plus grand espace, peu importe, mais elle peut être un couloir. Ou elle peut, au contraire, on peut avoir par exemple différentes aires marines protégées et créer des couloirs de protection entre ces aires marines qui permettent aux espèces qui se déplacent de ne pas passer d'un statut où elles sont protégées à un statut où elles ne le sont plus du tout, où elles le sont à nouveau. Et donc, c'est créer en fait de la connexion entre les différentes aires marines protégées. Et ça, par contre, c'est possible. Autant l'aire marine protégée complètement mobile, elle est difficile à mettre en place avec l'état du droit actuellement, mais autant des couloirs qui rejoignent différentes aires marines protégées ou créent des protections sur des aires de migration, ça c'est possible. Et en plus, ça existe déjà. Il y a déjà une convention qui est la convention de Berne qui protège les espèces migratrices, et tout un des espèces migratrices, pas que marines, mais certaines espèces marines bénéficient déjà de cette protection mise en place par la convention. Donc là, les outils sont possibles. Par contre, il faut être un peu imaginatif, c'est sûr. Et puis, il faut aussi donner la priorité à la préservation sur d'autres considérations, parce que le droit ne peut pas tout.
Merci beaucoup. En remontant dans le temps, si on observe certaines anciennes cartes marines, on constate que les limites de territoires connus sont souvent marquées par la représentation de monstres marins aux confins d'un territoire, des monstres qui désignent à la fois les limites de la connaissance et qui appartiennent aux bestiaires fantastiques des voyageurs de l'époque. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ces monstres marins qui apparaissent sur ces cartes ?
Oui. Alors, le mot monstre en lui-même, il doit être interrogé, il doit être questionné. Parce qu'on envisage aujourd'hui la monstruosité à travers notre regard contemporain. Le monstre tel que l'on peut le définir étymologiquement, c'est plutôt ce qui nous avertit, ce qui nous donne à voir. C'est presque
Qui montre.
Ce qui montre et qui relève moins de la terreur que de l'avertissement. Et effectivement, quand on naviguait dans des temps reculés, il faut savoir qu'on était tributaire du vent, de la force du vent, de l'existence même de ce vent, de certains passages difficiles. On pouvait attendre pendant des semaines ou des jours entiers que le vent soit avec nous ou pas, même dans des espaces qui sont très proches. Je pense par exemple, et ça c'est un point qu'avait bien mis en évidence Pascal Arnaud sur les bouches de Boniface, par exemple. On a des témoignages assez anciens, où même César, lorsqu'il revient avec ses troupes après la campagne d'Espagne, est obligé d'attendre ce vent pour pouvoir emprunter ce passage. Et puis, nous avons des passages compliqués, dangereux, périlleux. Les plus célèbres expressions nous renvoient à Caribe et Silla, c'est même devenu une expression qu'on a dans notre langue de tous les jours. Or, Caribe et Silla, ce sont avant tout des difficultés liées à la navigation, et on symbolise ces difficultés avec des monstres. Alors, ces monstres n'avalent pas ces bateaux, ces matelots avec des dents ou des écailles ou des représentations animales telles qu'on les voit sur les cartes, mais ils peuvent les avaler tout simplement et les faire sombrer parce que ce sont des passages extrêmement dangereux. Alors effectivement, il y a toute une tradition de monstres sur les cartes parce que tout ce qui est inconnu pose souvent la question des limites, comme vous le disiez. Et puis c'est aussi une tradition qu'on retrouve dans les textes sacrés, en particulier l'un des monstres les plus célèbres. C'est Léviathan, qu'on retrouve également dans notre tradition étatique chez Hobbes, et puis c'est en lien avec toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure en parlant de cette genèse de l'emprise des États sur les espaces maritimes océaniques. Donc le monstre en tant que tel, aujourd'hui, il a un autre aspect. Hein, si on revient vers nos espaces plus proches, le monstre fait moins peur et l'animal unique ou parfois étonnant, attire au contraire, puisqu'il est souvent au cœur d'études, de recherches biomédicales, et en particulier dans les abysses, on est en train de rechercher ces espèces rares, voire à capter et à monopoliser ces espèces pour un. Donc il y a un regard totalement différent sur ces monstres. Alors dans l'histoire, si on prend des travaux assez classiques, même si on prend les travaux de Pastoureau, le monstre dans l'histoire culturelle, ça peut être à la fois le récif, ça peut être à la fois une île, ça peut être un poisson. Alors le mot poisson peut désigner tout et n'importe quoi. C'est assez générique.
Merci beaucoup.
Je rebondis un petit peu, mais ça me fait penser, moi qui travaille sur les imaginaires du pieuvre dans la littérature antique jusqu'à nos jours, ce à quoi je m'intéresse, c'est comment la pieuvre a été pendant longtemps perçue comme monstre, et puis souvent on a dit pieuvre, mais en fait c'est un calamar géant. Enfin, il y a beaucoup de confusion entre différentes formes de céphalopodes, que ce soit pieuvre, calamar ou la seiche. Et aujourd'hui, on voit bien que par une approche plus scientifique et éthologique, mais aussi dans les arts et dans la littérature, on voit ressurgir ceux qui, pendant longtemps, ont été décrits comme des monstres, qui faisaient peur et qui déclenchaient des réactions phobiques, maintenant comme des merveilles de forme de vie de l'océan. Et c'est vrai que ouais, c'est quand même très intéressant de voir dans certaines publications scientifiques, on voit des photos aujourd'hui d'organismes qu'on voit, ou en tout cas qu'on est capable de prendre en photo et donc de révéler, de montrer au public par le biais d'une photographie sous-marine, des formes de vie qui sont presque informes pour nous, dans le sens où elles ne ressemblent à rien de connu. On ne sait même pas comment nommer certaines parties de leur corps, ou comment, voilà, même se mettre à imaginer ce qu'est le monde des abysses du point de vue de cette bestiole-là. Il me semble que voilà, ce glissement de monstre à merveille aujourd'hui est vraiment assez intéressant. Et que bien sûr, ces merveilles, elles viennent nous montrer aussi, nous révéler, dévoiler peut-être des formes de vie, mais aussi des rapports, des interactions, peut-être des interdépendances qu'on a jusqu'à présent toujours ignorées parce que on a pu ne pas se soucier. Mais bon, maintenant qu'on envisage d'aller racler les fonds marins dans les abysses, on est obligé aussi de se soucier de ce genre de. Oui, c'était une grosse digression. Oui, alors, on a eu la chance, Odile et France, de vous accueillir, comme la plupart des personnes qui interviennent dans le cadre de ce podcast, lors d'une journée d'études de notre séminaire à Seymour Blue. Et vous nous avez proposé ce très beau titre, Les forces imaginantes du droit face à la puissance des éléments océaniques. Donc, je voudrais que vous reveniez là-dessus, si vous le voulez bien. Vous vous basez sur les travaux de la juriste et universitaire française Mireille Delmas-Marty, qui propose de repenser, si j'ai bien compris, le travail des juristes, loin notamment de stéréotypes qu'on peut avoir sur ce dont relève le travail des juristes. Elle envisage les lois moins comme des convictions non discutées que comme le résultat de forces imaginantes, d'où votre titre, en perpétuelle adaptation au monde. Alors, l'océan est le lieu central de ses préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son travail? Et en quoi ce travail propose, offre une perspective féconde, stimulante, pour penser le droit dans les espaces de confrontation des forces humaines et des forces naturelles que sont les océans.
Pour introduire le travail de Mireille Delmas-Marty, qui a été une professeure de droit très influente, il faut revenir sur son objet principal. Et cela nous renvoie à notre échange tout à l'heure sur la mondialisation, puisqu'elle fait partie des juristes qui se sont posé la question, précisément du droit dans la mondialisation. Quand on envisageait le travail des juristes et les changements qui peuvent survenir dans l'approche qu'ont les juristes des relations de droit ou les relations conflictuelles, Mireille Delmas-Marty s'est profondément intéressée à cette question en lien avec la mondialisation. Si nous avons choisi de faire le lien avec les océans, c'est aussi par rapport à ce lien entre maritimisation et mondialisation. Parce qu'on le dit assez peu souvent, mais Mireille Delmas-Marty se sert de métaphores maritimes très régulièrement. Elle écrit des essais où on a des références qui nous renvoient à la mer, à la navigation, à la boussole. Ce sont des termes que l'on peut retrouver sous sa plume. Elle y est instinctivement, mondialisation et métaphore maritime. Et au-delà de ce lien, ce qui est intéressant dans son travail, c'est que contrairement à la plupart des images qui ont été bâties par des juristes au début du XXe siècle, qui associent le droit à la fixité, au socle, au solide, si je reprends par exemple le théoricien du droit très célèbre, Carlson, avec l'image de la pyramide des normes, Mireille Delmas-Marty, elle envisage un tout autre imaginaire du droit autour du flou.
Et de la fluidité, de l'impermanence. Enfin, on revient à ce dont parlait Odile tout à l'heure.
Exactement. Et ce qui nous intéressait précisément sur ces forces imaginantes du droit par rapport aux forces océaniques, c'est que les forces océaniques sont à envisager d'une manière totalement différente que les forces terrestres, ne serait-ce que pour comprendre ces espaces. D'ailleurs, les répartitions s'entendent en termes de volume, en termes de profondeur, ce qui est totalement atypique pour nos perceptions terrestres. Il y a évidemment ici un imaginaire tout autre à penser, qui passe par la fluidité, par le flou, plus que par le solide, qui passe par l'adaptation plus que par la fixité.
Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de troubles.
Oui, et le risque également, c'est un des mots clés du droit, alors là pour le coup du droit maritime, qui s'est construit sur cette notion de risque. Ouais. Pour toutes ces raisons, on a trouvé intéressant de convoquer son travail pour faire le lien entre cette expression qui vient d'elle, les forces imaginantes, mais qu'elle a repris également de Bachelard. Donc, on a aussi tout cet imaginaire plus littéraire et philosophique, en particulier dans L'Eau et les rêves, qui est repris par elle également. Donc, tout ceci concourait à nous inciter à confronter ces forces. Ces forces imaginant du droit et ces forces océaniques. Alors, on peut évoquer à la fois des questions internationales, mais aussi parfois des questions même d'ordre interne, parce qu'on évoquait l'érosion côtière, les risques de submersion tout à l'heure sur le plan international, mais ce sont des difficultés, des périls qui existent aussi sur le plan interne. Nous sommes même en dehors de cette réflexion sur le droit international, contraints de réviser nos conceptions héritées du code sur la fixité, sur la stabilité. Nous sommes en permanence face à des espaces qui sont en train de bouger aujourd'hui, avec beaucoup de questionnements sur également la retraite de certaines activités, le déplacement parfois d'activités économiques, même dans certains cas le déplacement d'anciennes zones de déchetterie qu'on est obligé de faire déménager pour qu'elles ne soient pas recouvertes par la mer, qu'elles ne soient pas recouvertes. Donc tous ces questionnements sont neufs et nous emmènent plutôt vers une voie qui et moins celle de la conquête sur le liquide, ce qui était quand même la voie principale depuis le 16e, 17e, comment on va conquérir des espaces sur la Terre, par exemple dans la poldérisation, et au contraire, comment aujourd'hui on va réussir à endiguer aussi certains mouvements ou certaines forces qui nous dépassent, via la dépoldérisation, via des nouveaux compromis ou nouveaux contrats qui nous permettront de ne pas être entièrement dépassés par les événements. Voilà un peu la source d'aspiration qui était la nôtre dans cette conférence.
Et c'est très beau votre titre parce qu'on entend depuis toujours et on est très habitué à la notion que le droit et de nouvelles législations émergent en réaction à des phénomènes et des changements sociétaux, que c'est d'abord la société qui change et qu'en fait le droit finit par légiférer et faire entrer en vigueur des choses qui sont déjà en fait des réalités sociales. Mais là, ce que vous nous démontrez, finalement, c'est une façon de reconnaître la gentilité de l'océan aussi, et pas que des sociétés humaines, dans la façon dont le droit doit s'adapter à une agentivité, voilà, qui est non humaine.
Alors, elle est non humaine, mais elle est un peu créée par des facteurs humains, quand même.
Elle réagit à des activités anthropiques.
À des activités anthropiques.
Ça, tout à fait, oui. Mais nous, nos activités anthropiques, à aucun moment aujourd'hui, on ne peut décider là de contrôler comment, que ce soit la circulation thermohaline dont je parlais tout à l'heure, ou des migrations de populations de poissons, comment la prolifération des sargasses. Donc il y a bien quand même, alors bien sûr tout est entremêlé, c'est en ça que quand on s'intéresse aux imaginaires marins, océaniques, la question du trouble nous intéresse au plus haut point, parce que ce que ça vient complètement remettre en question à tous les niveaux, quels qu'ils soient, ce serait ce mythe d'une séparation entre les mondes humains et ce qu'on a longtemps appelé la nature, où justement entre la Terre et l'océan, on a pensé qu'on pouvait délimiter des territoires terrestres, des territoires dits maritimes. Et en fait, on voit bien que l'océan vient brouiller toutes les frontières et nous révéler que ce soit nos activités, l'agentivité, on est complètement entremêlé avec l'océan, dans l'océan, que ce soit du côté en plus l'océan dans sa salinité, ou les cycles d'eau douce, ou le cycle de l'eau au niveau planétaire, enfin ce réchauffement climatique qu'on pourrait presque appeler réchauffement océanique aussi, enfin voilà, l'un ne va pas sans l'autre. C'est par rapport à cette agentivité de l'océan que ce concept, je trouve, est vraiment beau.
Ce sont effectivement les questions environnementales qui ont créé cette proximité, qui ont permis de faire ce lien, tout simplement parce que pendant longtemps, on a pensé que l'océan pouvait laver toutes sortes de déchets, même de fautes. Hein, dans la tragédie grecque, on pense qu'on peut se laver les mains des souillures. Or, aujourd'hui, que ce soit du point de vue des plastiques, du point de vue du grand cycle de l'eau, toutes nos actions sont constatables également en haute mer. Et ça, c'est un grand changement par rapport à la perception qu'on en a eue pendant des siècles. Nos activités humaines sont liées, et je retrouve ici le point de départ de ma préoccupation qui m'a fait venir au maritime, de l'eau douce au cours d'eau jusqu'à la haute mer. Il y a un continuum, hein. Et c'est précisément ce grand cycle de l'eau et toutes les problématiques environnementales autour de ce grand cycle de l'eau qui, je pense, ont permis dans le grand public de faire surgir cette nouvelle conscience de notre interdépendance.
Oui, c'est vrai qu'on constate que finalement, grâce à la donnée scientifique, parce que ce sont les scientifiques qui nous alertent, que notre monde apparaît d'un seul coup beaucoup plus petit, parce qu'on a accès à des zones auxquelles on n'avait pas accès pendant très longtemps. Et quand on va dans ces zones, quand les scientifiques font des analyses, bah, effectivement, ils constatent que les activités qu'on peut avoir à des kilomètres de là ont des répercussions, y compris dans ces zones, parce qu'effectivement, on trouve des déchets plastiques dans les abysses, par exemple. Donc, alors qu'on pourrait quand même imaginer que ce sont des espaces encore préservés. Je pense que c'est là aussi l'alerte, c'est qu'on constate qu'il n'y a plus vraiment d'espaces préservés, que tout est impacté par nos activités. D'où la nécessité de trouver des solutions, et de trouver des solutions avec toujours ce principe qui est celui de l'incertitude, parce que des solutions, on peut en avoir, mais on a parfois du mal à évaluer les conséquences de nos solutions sur d'autres types d'éléments naturels, parce que c'est vraiment un fonctionnement par système, par écosystème. Donc, même si on peut avoir une solution positive dans un cas de figure, dans quelle mesure est-ce qu'elle ne va pas produire des effets négatifs dans un autre? Et c'est, tu l'évoquais tout à l'heure, Béné, la question de l'exploitation des grands fonds marins. Là, on va quand même avoir une problématique, parce que dans ces grands fonds marins, il semble qu'il y ait, enfin, donc dans les abysses, des métaux rares. Ces métaux rares, ils nous sont nécessaires pour décarboner nos transports, mais en même temps, l'exploitation en elle-même, elle est destructrice. Donc, bah, au bout d'un moment, il va falloir choisir entre deux activités potentiellement destructrices. Donc,
elle est très précieuse pour produire des smartphones aussi, si j'ai compris.
Qui eux-mêmes participent au réchauffement climatique. Donc voilà, c'est difficile en fait de trouver le début et la fin, parce que c'est plus un cercle que vraiment une ligne continue.
Et puis c'est le paradoxe aussi des découvertes, quand on parlait des monstres tout à l'heure, des nouveaux monstres ou des créatures des abysses qui nous questionnent. il existe des êtres qu'on n'a pas encore étudiés, qu'on ne connaît pas. Et il serait quand même dommage de trouver déjà des monstres sous cellophane avant de les avoir découverts. Oui. C'est assez questionnant. Oui.
Sur cette question de la pollution généralisée, de la dégradation des milieux marins, vous nous avez dit pendant votre intervention que le droit maritime n'avait pas été conçu pour protéger le milieu, mais plutôt pour se protéger du milieu, en tout cas à ses débuts. Comment, à votre avis, comment est-ce qu'on peut amener une reconnaissance des droits des écosystèmes marins dans le droit maritime?
Alors effectivement, alors, on revient sur notre distinction entre droit maritime et droit de la mer qu'on a esquissé tout à l'heure. À l'origine, en droit maritime, des marins prennent la mer pour commercer et c'est très périlleux. On a tendance à l'oublier, mais on a eu l'occasion, il y a quelques mois, d'intervenir à Toulon en revenant sur un certain nombre de cas de figure historiques. Les taux de perte dans la marine, jusqu'à une période récente, étaient relativement élevés. C'est une activité très dangereuse. Les hommes qui prenaient la mer étaient particulièrement courageux. Aujourd'hui, on a tendance vraiment à sous-estimer ce paramètre parce que notre rapport à la vie, à la mort est parfois très différent. La notion de risque, elle est au cœur de la vie de ces hommes. Et leur objectif, c'est de revenir, de partir, mais de revenir. Donc effectivement, tout ce qui a été pensé dans cet espace qu'on ne pouvait pas maîtriser, qu'on ne pouvait pas quadriller, comme la Terre, tout ce qui a été pensé, c'est plutôt autour de ce risque à endiguer. Comment limiter l'impact des événements qui peuvent survenir en mer? Et comment faire face aux imprévus, à l'inattendu? Ce qui explique la part très importante de la notion de fortune dans l'histoire du droit maritime. Donc, effectivement, ce droit, il a été pensé tout d'abord pour se protéger du milieu. Comment, par exemple, faire face à une tempête? Comment permettre à un navire de traverser? Pourquoi ne pas jeter des marchandises? Comment répartir les pertes liées à ces jets de marchandises? Tout ceci nous renvoie, par exemple, aux origines de la loi sur le jet, et donc à la Lex Rodia de Iactu, qui est immémoriale, antique. On pourrait multiplier les exemples ainsi, mais pendant longtemps, l'objectif n'a pas été de protéger le milieu. Ça ne venait même pas à l'esprit. Alors effectivement, cette préoccupation de protéger le milieu, elle est beaucoup plus récente. Elle n'intervient pas même avec l'invention du droit de la mer dans la doctrine. Elle naît beaucoup plus tardivement avec la genèse du droit de l'environnement. Et ce sont des préoccupations qu'on voit apparaître, par exemple, dans certains essais. Je pense, par exemple, à Michelet, qui écrit au XIXe siècle, plutôt qui rêve, lorsqu'il écrit, qu'un droit puisse un jour protéger certaines espèces, certains espaces maritimes. Et ce n'est véritablement qu'avec les prémices du droit de l'environnement marin qu'on voit surgir cette préoccupation. Parce qu'effectivement, même du point de vue du droit de l'environnement, on a tendance à le méconnaître, une des racines du droit de l'environnement est profondément maritime. Ceux qui ont alerté sur les risques environnementaux, particuliers dans les années 30-40, étaient parfois, et même souvent, très proches du milieu maritime. Je pense à Anita Conti, par exemple en France, océanographe, ou alors même à Rachel Carson aux États-Unis. D'ailleurs, des femmes avec une conception de protection de ces espaces assez différente de la tradition culturelle liée au risque dans l'entreprise maritime. Si on prend d'autres ouvrages antérieurs, même l'imaginaire littéraire, si j'essaie de traduire ces préoccupations juridiques de manière un peu plus facile pour cette question des imaginaires, nous renvoie au risque que l'on traverse, hein, qu'on prend les grandes épopées maritimes, les textes de fou, etc. On est sur la notion de risque. On n'est pas sur la notion de protection de l'environnement. Donc il y a un nouvel imaginaire qui s'est constitué véritablement tardivement.
Et souvent, quand on parle de droit et de l'environnement, surtout du point de vue... moi, j'aime pas trop le terme d'environnement, donc je vais peut-être essayer de l'éluder. Mais de donner des droits à des non-humains, on pense pas souvent, on cite Christopher Stone dans les années 1960, avec son traité Chartreuse Half Standing en français, je ne sais pas comment on dit, est-ce qu'on peut accorder, faut-il accorder une
les
personnalité
armes peuvent-ils
juridique,
le plaider, oui.
Les armes peuvent-ils le plaider, voilà la traduction officielle. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose dont on discute beaucoup, il y a tout un tas d'expérimentations, ici on est au bord de la Loire, voilà, il y a eu un Parlement de la Loire qui s'est constitué. De votre point de vue, en fait, pour des juristes, quels sont les défis que rencontrent les juristes lorsqu'ils tentent d'amener la protection de la nature dans le droit? Est-ce que selon vous, cette notion que la Loire, un fleuve ou autre entité ou espèce non humaine pourrait être dotée d'une personnalité juridique, est-ce que ça vous semble une solution pertinente, efficace? À quel endroit pour vous, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut investir peut-être aussi du point de vue des imaginaires? Du point de vue peut-être de comment ça permet de mobiliser ou de parler à un grand public de questions qui peut-être quand on les aborde d'un point de vue juridique, ou est-ce que pour vous il y a d'autres outils juridiques qui peuvent être mis en œuvre? Je sais que souvent quand j'entends des juristes s'exprimer sur des notions que je maîtrise moins bien, ce que j'entends c'est ah mais en fait les droits existent déjà et finalement ce que va apporter cette reconnaissance d'une forme de personnalité ou avec des droits à un non-humain n'est pas vraiment nécessaire parce que les droits existent déjà. Et parfois, moi, je me dis, mais oui, mais quand même, ça fait bouger énormément de choses dans la perception qu'a la population générale et même peut-être à des endroits de comment, quel type de rapport on a avec un fleuve, c'est quand on lui reconnaît une personnalité juridique et des droits. Bien sûr que ça peut limiter le droit d'avoir telle ou telle activité, de jeter tel ou tel déchet industriel ou de pêcher. Mais c'est aussi que ça reconnaît peut-être, ou ça peut donner à exister notre attachement, qui parfois peut être affectif, psychique, d'autres diraient spirituel, à un fleuve, une rivière, une mer, un océan. Voilà. Comment vous voyez cette chose-là tous les deux?
Dans un premier temps, on peut peut-être revenir sur les origines de cette distinction droit de l'environnement, droit de la nature. Cela nous renvoie à une année, hein, 1972, puisqu'on a effectivement, dans la doctrine, cet essai, les arbres peuvent-ils plaider, qui est un élément de la contre-culture doctrinale qui va être très important pour fonder cette tradition de droit de la nature. Mais dans le même temps, le droit de l'environnement, qui se met en place et qui va être étudié également par la suite dans les facultés, d'abord sur le plan international, puis on le verra sur les plans nationaux. Il apparaît aussi à la suite de la grande conférence de Stockholm, mais finalement, ces deux voies, l'une plus juridique, l'autre plus subversive et politique, même quand bien même il s'agit de droit également, mais d'un droit qui n'est pas encore reconnu ou qui est en passe de l'être dans certaines zones, ces deux voies sont relativement récentes. Et le premier problème que l'on peut envisager, avant même d'examiner la différence entre les voies proposées par le droit de l'environnement et les droits de la nature, c'est le problème de l'effectivité, y compris du droit de l'environnement. Est-ce que les mesures sont efficaces? Est-ce qu'elles sont respectées? Ce sont les premières questions que l'on doit se poser. Alors, je pense qu'effectivement, on a le droit de l'environnement, les droits de la nature. Il y a peut-être d'autres voies qui vont émerger, parce que, comme on le disait tout à l'heure, à propos des forces imaginantes du droit, c'était une belle expression de reprise de Bachar et Mireille Delmas-Marty, l'imaginaire juridique ne se limite pas à ces deux voies. On peut voir apparaître d'autres approches. Mais aujourd'hui, en tout cas dans le droit positif, le droit qui s'applique, c'est le droit également qui s'enseigne, c'est le droit de l'environnement. Quand bien même l'expression peut heurter certaines, je comprends ce que tu disais, Béné, mais c'est le droit qui est enseigné. Voilà.
Non, simplement, je suis oui, tout à fait d'accord. C'est vrai que la nature, elle a déjà intégré le droit et elle l'a fait, comme l'a dit France, depuis les années 70. Enfin, en droit international, avec la première déclaration de Stockholm en 72, très vite suivie par des législations internes, plus énormément de normes, que ce soit au niveau international, au niveau européen, au niveau interne. Donc, ce n'est pas la norme qui manque. Après, il y a la question, effectivement, de l'effectivité, donc la manière dont cette norme est appliquée et respectée. Donc, est-ce qu'il faut partir vers plus de réglementation? C'est vrai que c'est pas vraiment une solution qui est toujours très efficace. Est-ce qu'il faut qu'on imagine d'autres concepts qui sont pas si nouveaux, hein, parce qu'effectivement, Charlestown, c'est 1972, donc c'est pas non plus quelque chose qui vient juste d'arriver. Ça peut être une voie à laquelle réfléchir. Moi, je pense qu'elle a un intérêt d'un point de vue symbolique. Est-ce que cet intérêt d'un point de vue symbolique, il va connaître une consécration en droit? Je ne sais pas. Là, je suis un peu plus dubitative parce que finalement, on constate que au-delà de cette consécration symbolique, c'est à nouveau plusieurs questions juridiques qui se posent en termes de représentation de ces éléments naturels. Parce que le droit, ça reste une norme sociale, hein, donc il faut bien que quelqu'un parle au nom de ces écosystèmes. Et donc, parfois, je me demande si c'est pas simplement une manière de déplacer la question, parce que qui va parler au nom de la haute mer? Concrètement, en fait, qui là, aujourd'hui, peut parler au nom de la haute mer? Pour le moment, ce sont les États qui parlent au nom de leurs intérêts qui se développent en haute mer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme institution qui parle au nom d'un écosystème? Alors, ça existe déjà, puisque l'Autorité internationale des fonds marins parle au nom des grands fonds marins. Mais ce que l'on voit, c'est qu'elle n'en parle pas toujours pour les protéger, elle en parle aussi pour développer une exploitation. Donc, il y a qui parle et donc qui parle au nom de ces écosystèmes et quels outils pour les protéger. Et là, on en revient au droit de l'environnement, en fait. Hein. Les outils, ça peut être de la réglementation, c'est l'interdiction d'immersion, l'interdiction de rejet. Et donc, là, je pense que la qualification juridique en tant que telle, elle est intéressante, encore une fois, pour permettre peut-être de questionner notre rapport à la nature, à l'environnement, mais elle ne peut pas mettre de côté le régime juridique qui va découler de cette qualification. Donc, qualifier en tant que tel, ça n'a pas tellement de sens d'un point de vue juridique. Derrière, c'est quel régime de protection va être mis en place. Et là, on retrouve pour le moment encore les outils classiques du droit de l'environnement. Alors peut-être que c'est là où effectivement il faut imaginer maintenant d'autres outils. Voilà, c'est ça.
On mentionne toujours un peu les mêmes exemples, mais... Je crois que c'est le Gange en Inde qui a ça. Enfin, voilà. En Nouvelle-Zélande aussi.
En Espagne aussi.
En Espagne. Est-ce qu'en France, ça vous semble faisable, souhaitable et...
Alors, c'est vrai que pour prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, comme pour l'exemple de la Nouvelle-Zélande, il existe aussi une dimension qui s'enracine dans un passé colonial également, puisque tout ce qui était lié à l'expérience néo-zélandaise était très lié au traité du Waitangi. Cela a été bien mis en évidence par une avocate qui est très investie sur ces questions, qui s'appelle Marine Calment, qui a créé un ouvrage qui s'appelle Décoloniser le droit, et donc la notion d'environnement qu'on voit. Donc effectivement, dans un certain nombre de cas, il n'est pas simplement question d'environnement, mais aussi de redéfinition dans un espace qui avait été bousculé par la colonisation, d'un nouveau rapport à la nature, plus respectueux de... les traditions locales. En France, en Espagne, on a l'expérience de la Mar Menor, cette lagune. C'est la première expérience que l'on a pu connaître dans l'Union européenne. On a l'expérience de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi ça passe par les Sénats coutumés, donc c'est assez particulier.
C'est un peu particulier.
Mais comme on le disait tout à l'heure en échangeant avec Odile, certes, on a les droits de la nature, mais il y a aussi d'autres expériences et d'autres imaginaires qui sont en train de se constituer. Parce que là, on parle quand même de mouvements qui nous font remonter aux années 70. Donc, récemment, je crois même dans cette salle, on avait écouté Glenn Albrecht qui nous parlait de sa théorie des geistes aussi et la manière dont il voulait juridiciser cette notion. Sa notion de geist ou gedeist dans son ouvrage sur les émotions de la Terre.
Oui.
Voilà, donc on a beaucoup d'auteurs qui sont reconnus ou qui travaillent dans le domaine de l'environnement ou de l'écologie et qui veulent introduire de nouveaux concepts.
Oui, en fait, c'est l'idée de spécialistes qui ne sont pas juristes, parce que Glenn Albrecht, il est philosophe. Et donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est ces concepts qui naissent de la philosophie ou peut-être, je ne sais pas, de la littérature. Est-ce que nous, juristes, on est à même de les traduire? Donc, est-ce qu'on est à même de les traduire avec les outils dont on dispose aujourd'hui? Ou est-ce que, si on veut les traduire, il faut que nous-mêmes, on imagine d'autres concepts. Et je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est cette communication entre les disciplines. Parce que si on reste, je pense, enfermé dans notre discipline, c'est normal, on réfléchit dans notre cadre. parce qu'on est aussi habitué à ce cadre. On a été formé pour réfléchir dans ce cadre. D'où l'intérêt quand même, surtout sur ces questions-là, d'une approche interdisciplinaire où des concepts avec lesquels on n'est pas nécessairement familier nous interrogent sur notre propre discipline et vice-versa. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les philosophes entendent que ben, parfois, là, nous, on ne peut pas aller dans cette direction parce que y a trop de bruit, trop de contraintes ou qu'elles ne nous semblent pas nécessairement la plus pertinente. Voilà. Je pense que ces concepts, ils émergent de ce dialogue entre les disciplines.
Nous retrouvons ici cet imaginaire de la fluidité. C'est-à-dire que certaines doctrines peuvent ainsi trouver une forme de paroxysme à une époque. C'est le cas avec les droits de la nature, d'ailleurs, vous voyez, qui sont très reconnus et qui suscitent beaucoup d'engouement de la part du grand public. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer tout ce qui est en train de germer aujourd'hui et qui sera peut-être traduit plus tard ou que d'autres juristes essaieront de transcrire. Parce que je pense que, contrairement à ce qu'on dit souvent, notre époque est aussi créative.
Bien sûr.
Et qu'on peut aussi envisager d'autres voies. Nous ne sommes pas prisonniers des concepts des années 70 ou du 17e siècle. Voilà.
Et en fait, ce qui m'intéressait dans la question, c'était aussi... alors, si tu t'appuies sur les travaux, par exemple, de Marine Calmet, qui elle regarde beaucoup ce qui se passe chez des peuples qui relèvent d'autres ontologies, on est chez des populations en fait qui souvent, bon nous on va dire avec nos concepts, que ce sont des populations totémiques et animistes. Mais en fait ce qui m'intéresse quand on envisage de reconnaître une forme de personnalité juridique à un fleuve, c'est que ça nous rappelle peut-être quelque chose d'important, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller chercher chez des peuples animistes ou totémistes extrêmement lointains, et avec lesquels on pourrait croire qu'on n'a rien en commun en termes de culture, de cosmogonie, de mythologie. Telle rivière est sacrée, ben c'est pas notre rivière, tel animal totem, c'est des animaux qui n'existent même pas chez nous, etc. Il me semble qu'il y a quand même un retour, ou en tout cas un questionnement dans le monde occidental, qui est le nôtre, de la modernité, non pas évidemment pour renoncer ni au savoir scientifique, ni... tout ce que peut nous apporter des progrès technologiques, etc. Mais il me semble qu'aujourd'hui, ce que ça vient faire, c'est peut-être nous rappeler, tu vois, on parlait de mythologie grecque tout à l'heure, que nous aussi, nous descendons, nous avons un héritage, un patrimoine culturel dans lequel il est traduit que nous, à une époque, nous savions nous adresser à l'océan comme une force, nous savions nous adresser à un fleuve comme... William nous parlait d'Okeanos qui sort de son lit, comme des forces avec des agentivités. Et que, ça c'est ce que démontre très bien Caroline Merchant dans son The Death of Nature, qui a été traduit il n'y a pas très longtemps chez Wild Project, La mort de la nature. Ce qu'elle montre, c'est que lorsqu'on est passé à la modernité, où on a changé d'imaginaire par rapport à la nature, on a fait une machine inerte et inanimée qui pouvait être exploitée ad vitam aeternam. On s'est surtout autorisé à une exploitation sans limite, à outrance. Et qu'en fait, du temps des Grecs, où on se représentait une montagne comme la Terre-Mère, voilà, on n'est pas obligé d'aller du côté en Équateur pour retrouver la Pachamama. On a ça dans Gaïa, on a ça dans nous. La question, c'est comment ces représentations qui sont juridiques, mais qui en fait sont aussi des représentations qui vont avoir une incidence sur nos affects, nos imaginaires, orienter nos éthiques et puis ce qu'on s'autorise même comme empiètement, exploitation de la nature. Il me semble que c'est à cet endroit que c'est intéressant de faire ça chez nous, dans nos peuples occidentaux, parce que peut-être ça vient de façon intelligente, éclairée, c'est-à-dire avec une distance critique et réflexive. On est conscient de ce qu'on fait quand on accorde une personnalité juridique. Ou moi, je travaille beaucoup sur des textes littéraires. Donc là, en littérature, en fiction, tout est permis du point de vue animiste, totémiste, etc., comme expérience de pensée. Et en même temps, on est conscient que c'est une expérience de pensée, que c'est de la fiction, etc. Mais là où ça a une vraie puissance, c'est la façon dont ça va orienter une éthique, dont ça va orienter des affects qui ensuite ont des incidences vraiment très réelles sur même ce qu'on peut se permettre. Il y a un moment où on pense que c'est légitime de décapiter une montagne pour aller chercher le charbon. Il y a un moment où il y a une légitimité d'une action qui en fait se situe à un niveau éthique, psychologique, et il me semble que quand le droit finalement s'emparent de choses qui sont des expériences de pensée, on est d'accord, mais avec des incidences réelles, il me semble que ça a une incidence aussi, de façon très large peut-être, sur la population, vraiment comment on se pense et comment on pense un fleuve.
C'est un débat qui en réalité a déjà eu lieu. C'est ce qui est intéressant, c'est méconnu et c'est en lien avec ces imaginaires dont on parlait entre les imaginaires du XXe ou du XVIIe siècle. Parce que la question de savoir qui est gardien de la forêt, qui est gardien du cours d'eau, ce sont des questions qu'on s'est posées au XVIIe siècle pendant la modernité. Et si on reprend les travaux de grands juristes, je pense par exemple à des juristes comme Loiseau, à l'époque, ces débats ont été l'occasion de polémiques assez tendues, puisqu'on a considéré que l'État royal serait le meilleur gardien à travers le domaine de la couronne dans lequel on a incorporé les forêts, dans lequel on a incorporé les fleuves navigables, puis les rivages de la mer. Loiseau, il nous dit d'ailleurs au XVIIe siècle que ce sont des espaces qui étaient autrefois, et on doit le dire comme ainsi, publics. Alors public, pas au sens où on l'entend, mais à travers cette vieille expression du français du XVIIe, public, P-E-U-P-L-I-Q-U-E-S, du peuple, public. Et ça nous renvoie à un autre imaginaire. Et lui-même et d'autres se posent la question de la légitimité de l'incorporation au domaine de la couronne de ces espaces, qui autrefois ne faisaient pas partie de des propriétés de la couronne. Le roi exerçait des droits éminents de justice, de police, mais n'était pas le propriétaire. Donc, ce débat, il a eu lieu chez nous. Mmh. Et précisément au moment où cet imaginaire de l'État, il s'est construit. Mmh. On a pensé que la garde des forêts, la garde des cours d'eau, la meilleure garde possible était celle qui pourrait permettre à la couronne, puis à l'État, de l'exercer. Mmh. C'est important d'y revenir parce que le débat a existé. Mmh. Alors ça n'empêche pas qu'effectivement, auparavant, on a certes connu les divinités autour des cours d'eau dans la mythologie grecque, comme tu l'évoquais, Béné. Hein. C'est vrai qu'on pense par exemple, je ne sais pas, Potameuil, les Potamides dans les cours d'eau, etc. Mais quand on voit bien qu'au XVIIe siècle, même nos grands cours d'eau, il suffit d'aller faire un tour à Versailles, ils sont tous représentés à travers des statues, très bien alignées, toutes organisées autour de ce roi politique qui soumet aussi et organise la nature. Donc c'est un choix que l'on a fait dans une période qui est aussi celle qui va être celle qui est concomitante au cartésianisme, se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est une époque au cours de laquelle nous avons fait des choix. Alors, est-ce à dire pour autant que...
Qu'ils sont définitifs et qu'on ne peut pas les interroger.
C'est vrai.
Notamment à l'aune des limites planétaires.
Exactement. Exactement. On peut se poser cette question. Et après, ça suppose aussi une autre et seconde question. Est-ce à dire que, comme le disait Loiseau, ces gardes publiques de tout le monde seraient plus efficaces ou plus effectives que celles de l'État? Ça aussi, c'est une autre question, parce que l'objectif final, c'est quand même de préserver ces fleuves, ces forêts, ces rivages, ces espaces.
Oui, est-ce que l'emprise est une bonne protection? Justement, si on regarde les débats qui ont précédé l'adoption de la Convention de Montego Bay, c'est sur ces questions-là aussi que les États côtiers ont revendiqué d'étendre leurs compétences dans l'espace maritime, en considérant que le principe de liberté, tel qu'il avait été conçu au XVIIe siècle, n'était pas à même d'assurer. Alors à l'époque, ce n'était pas trop la question de la protection de l'environnement, mais plutôt la conservation des ressources halieutiques. Mais maintenant, la question, elle aborde aussi le terme de la protection de l'environnement. C'est-à-dire, est-ce que la propriété, est-ce que l'emprise est un bon outil? Donc la personnalité juridique, c'est aussi considérer qu'un groupe représente un écosystème. Donc, est-ce que c'est la bonne approche pour assurer la protection ou pas? C'est vrai que je pense que la question, elle se reformule différemment en fonction des époques, mais elle traverse ces époques. C'est-à-dire qu'on la redécouvre formulée un peu différemment maintenant, mais elle n'est pas récente.
Et ce qui est certain, c'est que le juriste, il a une caisse à outils conceptuelle. Son objectif, ce n'est pas nécessairement de se servir d'un seul outil en particulier, mais de résoudre des questions ou d'apporter des réponses avec l'outil le plus adapté.
Vous avez évoqué aussi l'importance de faire avec plutôt que faire contre, à travers la protection d'espaces qui vont favoriser l'adaptation au changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle du droit dans la protection de ces espaces? Et est-ce que vous auriez peut-être un exemple d'un tel espace?
Alors là, c'est toute la question assez récente, alors qui là nous vient des sciences du vivant, de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire de dire que pour lutter contre le réchauffement climatique, enfin contre les effets du réchauffement climatique, peut-être qu'il faut aussi utiliser la nature. Alors on sait, hein, l'océan est un puits de carbone, c'est-à-dire qu'il absorbe une grande part du CO2 que nous émettons. Et donc, bah, ce faisant, il réduit l'effet de serre, puisque le carbone est dans l'océan et pas dans l'atmosphère. Et la question, c'est, alors, on peut, et ça, certains scientifiques le proposent aussi, mais on va pas trop aller sur ce terrain, on peut développer des mécanismes technologiques pour permettre à l'océan d'absorber encore plus du CO2, mais de manière artificielle. Donc ça, c'est toutes les techniques qui nous renvoient à la géo-ingénierie. Mais on peut aussi utiliser le fonctionnement des écosystèmes actuellement pour non pas renforcer ou augmenter leur capacité à absorber le CO2, mais pour faire en sorte qu'ils soient en mesure de réaliser cette fonction qui est déjà la leur. Et comment faire? Bah, tout simplement en les protégeant, c'est-à-dire qu'en limitant les autres facteurs de stress sur ces écosystèmes, que sont la pollution par les plastiques, certaines pollutions par hydrocarbures, etc. Et ça, c'est l'idée. Pendant très longtemps, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le droit de l'environnement, c'est quand même un peu un droit de la réaction. C'est-à-dire qu'on constate une dégradation, une pollution, et on prend une mesure de protection. Et les écosystèmes qu'on protège jusqu'à présent sont des écosystèmes dégradés ou des écosystèmes qui sont menacés. Et donc maintenant, c'est de se dire, mais peut-être qu'on peut ouvrir la finalité de la protection et protéger des écosystèmes, non pas parce qu'ils sont menacés, parce que certains encore ont une chance, se portent plutôt bien, mais en raison de la fonction qui est la leur. Et comme leur fonction, c'est d'absorber du CO2, eh bien, on peut aussi protéger ces écosystèmes pour assurer le maintien de cette fonction. Alors, les outils existent déjà, hein, parce que les outils, on les a comme les aires marines protégées. Par contre, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est sur les motifs de la protection. Et considérer que on peut toujours le faire, protéger des écosystèmes qui sont menacés ou en voie d'extinction, c'est important, mais peut-être aussi protéger des écosystèmes en raison des fonctions qu'ils apportent au fonctionnement de l'écosystème dans son ensemble. Ça suppose de revoir nos critères de classement d'une aire marine protégée. En fait, ce sont les scientifiques qui proposent, mais après, les critères de classement, c'est le droit qui va les décider, d'où l'intérêt d'ouvrir ces critères de classement. Et là, si on lit par exemple l'accord qui va peut-être un jour entrer en vigueur, qui est l'accord BBNJ, l'accord sur la protection de la biodiversité au-delà des zones sous juridiction nationale, dans l'annexe 1 qui identifie des critères de classement, il y a ce critère justement de prise en compte des effets du réchauffement climatique. Voilà. Donc ce n'est pas dit très très clairement, mais ça peut être interprété comme éventuellement permettant de protéger des écosystèmes en raison de leur fonctionnalité en quelque sorte.
Oui, on parle beaucoup de services écosystémiques qui
ça.
sont rendus,
C'est ça, c'est la
qui
même
nous
idée.
sont rendus.
Il ne faut pas se priver des solutions. Après, on peut dire que ce n'est peut-être pas toutes les solutions qui doivent passer par cette optique, mais je trouve qu'on est à un stade où il ne faut pas laisser de côté les solutions, même si parfois, effectivement, elles peuvent être fondées sur des motifs qu'on trouve très utilitaristes. Je suis assez d'accord. C'est comme le principe d'économie bleue, avec lequel moi, je ne suis pas toujours en adéquation. Parce que je trouve que, bon, qui dit économie dit quand même exploitation, et c'est très bien. Mais bon, dans ce cas-là, en quoi est-ce que ça peut être un outil de protection? Voilà, donc je pense que maintenant, on parle d'économie régénérative, alors ça change un peu. Mais en même temps, c'est un outil parmi d'autres, et je pense que... ce serait probablement une mauvaise idée que de les laisser de l'autre côté. Et puis parfois, les outils évoluent. On parlait tout à l'heure des monstres marins. On peut aussi parler des baleines. À une époque, elles étaient considérées peut-être comme monstrueuses. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Et c'est intéressant de voir que la convention qui les protège, au départ, c'était une convention qui en régulait l'exploitation. Alors que la convention n'a pas changé. C'est une convention 1946. Le texte est toujours là. Mais la manière dont les États l'appliquent, on conduit à ce que dorénavant, cette convention, ce soit plus une convention d'exploitation, mais une convention de protection des baleines. Donc, c'est assez intéressant de voir que les outils juridiques évoluent, alors non pas en tant que tels, parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu d'amendement à la convention, mais parce que l'interprétation qu'on en fait, et donc que les États en font, et donc l'usage qu'ils en font, a évolué.
Et même la protection des baleines, on pourrait, c'est un petit peu une des propositions, plus ou moins, que je faisais, enfin. En termes de logique, que faisait Paul Watson, là, qui était à l'Université de la Terre à l'UNESCO, où il disait les excréments de baleines permettent le développement du phytoplancton. En fait, ça fertilise voilà, les océans et ça permet au phytoplancton de se développer. Dans la mesure où aujourd'hui, le phytoplancton produit 70% de l'oxygène sur la planète. Protéger les baleines parce qu'en fait, elles rendent, et il n'y a pas que celui-là, un certain nombre de services écosystémiques. Et oui, c'est une autre façon d'aller défendre pour des raisons économiques et juridiques. On imagine bien que Paul Wasson a d'autres façons aussi de vouloir défendre pour d'autres raisons, mais elles peuvent être complémentaires, même si...
C'est un argument supplémentaire.
Voilà. Dans un monde qui est quand même régi par des intérêts économiques, c'est un argument de taille.
Ça peut être utile, donc soyons aussi pragmatiques.
Et puis ça amène l'idée d'interdépendance aussi qui est importante.
Bien sûr.
Oui, et moi ça me fait penser à un principe qui n'est pas du tout par rapport en premier lieu aux services écosystémiques qui nous sont rendus, mais qui part d'abord d'un fondement d'une ontologie relationnelle qui reconnaît notre interdépendance totale, qu'elle soit, on pourrait inclure, économique, mais à tous les niveaux, entre les mondes qu'on pense humains et non humains. C'est un concept fondamental à une certaine partie des écoféminismes qui défend l'idée de pouvoir avec plutôt que de pouvoir sur, et qui remet vraiment en question cette idée de volonté de domination de ce qu'on a conceptualisé comme relevant de la nature ou appartenant à la nature, mais de toujours penser comment le pouvoir, le nôtre, même dans une volonté de pouvoir, il ne peut vraiment être soutenable ou durable que si il est fondé sur des pouvoirs avec les autres, humains et non humains. Alors, vous avez dans la même idée qualifié à la fois le droit et les eaux des océans de force. Est-ce que vous pouvez les caractériser et nous expliquer ce qui distingue ces différents types de forces, ce qui les rapproche, quels sont leurs lieux de confrontation et quelles formes de coopération, justement, sont envisageables entre elles?
Tout d'abord, on peut revenir sur cette notion de force. Ce qui est intéressant dans l'approche que l'on a du droit, c'est que le droit sans la force, c'est peu de choses. Et malheureusement, il est nécessaire que le droit soit animé de cette force, de contrainte, de pouvoir contraignant, pour pouvoir aboutir à des résultats. Il existe cette dimension de la force du droit qui est incontournable et on ne peut pas simplement rester dans des réflexions prudentes, mesurées, envisagées. À un moment donné, le rôle des juristes, c'est aussi de trancher dans ce que cela peut avoir parfois de difficile. Et quand on envisage cette notion de force par rapport aux océans, on se rend compte que pendant longtemps, le droit, il a voulu se... On a envisagé le droit comme un moyen de se protéger des forces non désirées des océans, que ce soit sous l'effet des submersions, que ce soit sous l'effet des tempêtes dans le droit maritime ou dans différents types de droits sur le littoral. Donc, ce qu'on a voulu comparer, c'est cette force de contrainte du droit par rapport à ces contraintes naturelles nées de la force des océans. A priori, ce sont deux ensembles qui entrechoquent notre approche des contraintes à la fois naturelles et humaines. Donc c'est dans cette optique-là qu'on avait fait ce rapprochement au niveau de la force. Alors, la force, c'est une notion qui peut être envisagée de manière négative souvent, mais nous, juristes, on l'envisage souvent de manière positive, parce que la force, quand elle est paisible, stable et sûre, c'est aussi un des éléments de la paix, quand elle est légitime. Et aujourd'hui, je crois que l'un des plus grands dangers, parce qu'on se pose beaucoup de questions depuis le début de notre entretien, en interrogeant une multitude de modèles qui pourraient être alternatifs, intéressants, mais n'oublions pas que nous sommes ici, en Europe, dans un espace où... il y a une grande richesse de conversations scientifiques, intellectuelles sur ces problématiques, mais qu'à l'heure actuelle, à l'échelle du monde, même sur les outils qui peuvent sembler les plus classiques, on est dans l'obligation de constater une forme de déni. Et même les outils qui sont parfois remis en cause dans les débats aujourd'hui, dans nos cercles, parce que jugés un peu anciens, un peu traditionnels, ne sont même pas acceptées parfois par certains pays à l'échelle internationale. Donc il ne faut pas oublier que nous traversons une phase de déni très importante, où même certains mots, du point de vue scientifique, sont parfois dangereux à prononcer ou remis en cause, et le mot environnement fait partie. Je pense que voilà, cette notion de force, elle est importante parce que elle nous renvoie à cette capacité des juristes à trancher. Elle nous renvoie aussi à la force intellectuelle, hein, aussi, force du combat d'idées. Et je pense qu'il faut qu'on soit fort pour envisager les évolutions à venir de nos espaces maritimes océaniques qui vont être très troublés et très perturbés en raison de l'évolution de notre climat et des conditions du réchauffement. Voilà, donc c'est dans cet esprit qu'on s'était posé cette question.
Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'espace maritime, là, comme un réservoir de richesses océaniques, mais l'espace maritime, c'est aussi un lieu de circulation, c'est un lieu sur lequel circulent des navires, y compris des navires de guerre. Donc, c'est aussi un espace de combat. Et on voit bien que pour les États, cette force maritime, hein, militaire, elle est importante aussi. Alors, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'elle prenne le pas sur les considérations environnementales. Mais bon, on peut être plus ou moins optimiste selon là où on se place. Alors, c'est vrai que la force est associée au droit. C'est un peu moins vrai en droit international, parce qu'en droit international, il n'y a pas d'autorité supérieure aux États qui aurait un pouvoir coercitif. Donc, c'est un droit qui se base beaucoup sur la coopération et la réciprocité des intérêts. Voilà. Et donc, ça fonctionne tant qu'il y a une réciprocité des intérêts et de la coopération. Le jour où les intérêts divergent énormément, la coopération est mise à mal. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi en ce moment, clairement.
Et c'est vrai que l'océan, c'est le point de rencontre des différentes forces qui animent aussi cette mondialisation, qui est également une maritimisation, force économique, aussi force militaire. Les ressources environnementales majeures sont là également. Donc c'est un carrefour de rencontre des différentes forces qui animent notre monde. Et on en revient à la question que posait Mireille Delmas-Marty. Dans cette mondialisation, enfin, quelle place occupe le droit et quelle ambition peut avoir le juriste? Ah.
Je pense que c'est une belle ouverture, une belle conclusion pour ce podcast, et on va terminer avec notre question traditionnelle qu'on pose à tous nos intervenants, toutes nos intervenantes. Si vous deviez recommander la lecture d'un ouvrage à nos auditeurices, donc un ouvrage chacun, du coup, en lien avec les imaginaires et les représentations des mers et des océans, et ou avec le droit de la mer ou le droit maritime, quel serait-il?
Alors, je vais vous faire une première réponse d'actualité, puisque en ce moment je suis obligé de travailler quelques lectures imposées. Il y en a certaines qui sont plus ou moins agréables et j'ai la chance de lire en ce moment L'être et la mer sur l'existentialisme écologique de Corinne Pelluchon. Donc je pense que c'est une approche pour le littéraire assez intéressante pour rentrer dans cette conception philosophique de la fluidité, de cette manière de repenser notre philosophie à travers l'élément liquide. Aussi de manière peut-être contemporaine, je pourrais recommander de lire tous les ouvrages qui viennent d'être édités dans plusieurs maisons d'édition, que ce soit chez Corti ou ailleurs de Rachel Carson, parce que c'est quand même quelqu'un qui a ouvert un pont entre la biologie, le droit et la littérature. C'est une spécialiste, une technicienne, mais qui a su vulgariser ses préoccupations. Et elle a commencé par le faire dans le domaine maritime. C'est un grand succès, la mer autour de nous, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi grâce à cette réflexion qu'elle a pu écrire Le Printemps silencieux. Et elle interpelle d'ailleurs dans un certain nombre d'ouvrages, je pense au Sens de la merveille, notamment publié chez Corti, la collection de Philia, où elle fait appel aux juristes à l'époque où toutes ces notions d'environnement sont encore très évanescentes et n'existent pas nécessairement même dans le vocabulaire des juristes. Donc je conseillerais ces deux livres pour conclure notre entretien.
Alors moi peut-être, je conseillerais le livre de Martine Raymond Gouyou qui s'appelle Du droit de détruire, parce que je trouve que le titre, il est très intéressant, c'est-à-dire, parce que là on parle voilà de la nécessité de la protection. Alors évidemment dans son ouvrage, hein, elle évoque toutes les questions liées alors au droit maritime, sur est-ce que justement nous avons encore le droit de détruire? Et donc la réponse est non, et donc elle argumente les raisons pour lesquelles nous n'avons plus ce droit, et elle l'argumente avec un raisonnement juridique. Donc là je trouve que c'est intéressant. Et d'un point de vue alors peut-être plus littéraire, peut-être Moby Dick. Moby Dick parce que ça revient sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la manière dont notre regard sur la mer change. Et que ben, c'est plus simplement un espace où on va ben, capturer des espèces, même si derrière il y a tout le combat de l'homme contre les forces de la mer, mais c'est un espace que l'on doit aussi protéger, sur lequel on a une forme de responsabilité. Et voilà, et je trouve que cette évolution, elle est intéressante, justement.
Merci beaucoup, merci Odile, merci France.
Merci. Oui.
Merci Lucie. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Odile Delfour et Franz Minard pour un épisode de podcast, le sixième, qui était consacré aux imaginaires et aux représentations de la mer du point de vue du droit maritime.
Et du droit de la mer.
Et du droit de la mer, n'oublions pas.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Ce podcast est enregistré avec le soutien de et dans les locaux de la MSH Ange Guépin à Nantes, grâce à l'appui pour la technique de Goulven Labatte. Il est également soutenu par l'UA, l'Université d'Angers, et il est rattaché au séminaire de recherche interdisciplinaire Seymour Blue, et dont les co-porteureuses, Béné Meillon, moi-même donc, et William Pilot, appartiennent au laboratoire Le Trois Lames et l'UMR TEMOS. Pour plus de renseignements sur notre séminaire, ses objectifs, ses activités de recherche, ses nombreux partenaires scientifiques et soutiens financiers à Angers, Nantes et ailleurs, rendez-vous sur le site écopoétique hypothèse.org où vous trouverez un onglet Seymour Blue assorti d'un menu déroulant qui vous permettra de naviguer en ligne et de prendre le large avec nous vers des imaginaires plus bleus. On vous souhaite du bon vent dans les voiles ou de prendre une bonne respiration pour plonger avec nous sous la surface de l'océan et dans des mondes aquatiques.